Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Podcast is a new radio.
Bon matin! Mon nom est Jean-Michel Lhomme et vous vous apprêtez à écouter Fais-tu frette, le podcast où les Québécois expliquent le vrai Québec à un Français fraîchement débarqué. Et croyez-moi, il y a du boulot. Vous avez aimé la saison 1? Alors vous allez surkiffer la saison 2. Car cette année, en plus de continuer à explorer la société, la culture et plus globalement le quotidien de la vie au Québec, je me fais fort de vous faire aussi découvrir des personnalités d'ici. Après tout, je le dis souvent, je ne suis pas venu ici pour le Québec, je suis venu pour les Québécois. Et franchement, je suis pas déçu, vous ne le serez pas non plus, parce que célébrités ou illustres anonymes, artistes ou entrepreneurs, aidants ou activistes, il y a ici pléthore de gens absolument incroyables. Vous allez voir, elle va être franchement bien cette deuxième saison. Et sinon, quoi de neuf? Bah, pas grand-chose, si ce n'est que depuis quelques mois, il y a une marmotte qui squatte sous le cabanon de mon jardin. Fais-tu frette, saison 2, on ouvre les micros. Bonne émission. Ma cabane au Canada, ou plutôt pour ce qui nous occupe dans ce balado aujourd'hui, ça va être plutôt mon chez-moi au Québec. Parce que voyez-vous, quand on décide de partir vivre à l'étranger, on est prêt à faire, mais alors plein de concessions et avoir notre vie complètement bouleversée. Plein de concessions, plein de bouleversements, sauf qu'avoir un toit au-dessus de la tête, c'est juste non négociable. Alors du coup, eh oui, pour trouver un logement, c'est la mission prioritaire de tout nouvel arrivant dès qu'il met les pieds ici à l'aéroport. Et pour ça, il faut trouver quelqu'un qui va nous aider parce que vous allez voir qu'on comprend pas forcément tout grand-chose. J'ai donc invité aujourd'hui Gabriel d'Anjou. Salut Gabriel.
Bonjour, ça va bien?
Bien et toi?
Ben oui, ça va bien.
Alors Gabriel, je te présente un tout petit peu pour les gens qui nous écoutent. Et tu me dis si je dis des bêtises, hein, parce que a priori je vais en dire 2-3 aujourd'hui. Tu es courtière en immobilier sur la rive sud de Montréal. Tu es l'une des courtières les plus performantes. Bravo.
Merci.
Du réseau Remax. Et accessoirement, tu es la courtière qui a accompagné toute notre petite famille pour trouver son logement ici sur la rive sud. Merci encore, on est très heureux, c'est absolument super.
Ça fut un plaisir.
La toute première question que j'aimerais te poser, parce que pour quelqu'un comme moi qui vient d'une autre culture, mm-hmm. la question va poser sur ton statut. C'est-à-dire, parmi les choses qui nous surprennent ici, qu'on ne voit que dans les films ou dans les séries, tu vois, c'est l'extrême personnification de ton métier. Je m'explique. Tu es arrivé tout à l'heure à la maison pour cet enregistrement. J'ai vu ta voiture. Il y a ta photo en énorme sur la voiture. Et quand tu mets une maison en vente ou quelque chose et tout, tu vas planter un petit panneau avec ta photo. Et on va en parler dans un marché immobilier particulièrement actif en ce moment. On voit des photos d'à peu près tous tes confrères un petit peu partout. Comment ça s'explique ça, que ce soit ce point personnalisé? T'es indépendante, c'est ça?
En fait, au Québec, il faut comprendre qu'on est 14 000 courtiers immobiliers. Donc, du coup, il faut se démarquer. Il faut, l'image est très importante aussi, se faire voir. Moi, j'ai utilisé ma voiture. Je me suis dit, en bon québécois, si je suis pour brûler du gaz, je suis aussi bien d'en profiter. Donc, ça fait, mon Dieu, ma deuxième voiture que j'ai lettrée.
Ouais.
Ensuite, la présence sur les réseaux sociaux, la pancarte, oui, en face d'une propriété, je crois que c'est aussi comme ça en France.
Oui, mais alors, c'est comme ça en France, mais on ne va extrêmement rarement mettre en avant l'agent immobilier. C'est-à-dire qu'on va mettre, par exemple, si je fais un comparatif, ici, on mettrait Remax et juste avec un numéro de téléphone de société.
OK, d'accord.
Mais on ne mettrait pas forcément le nom de l'agent, sa photo, son numéro de cellulaire personnel. Alors que toi, pour le coup, si on voit une maison qui nous plaît, qui visiblement, on voit un panneau avec toi dessus, si on appelle le numéro de téléphone qui est inscrit, c'est toi qui réponds. C'est pas une société, voilà, on est vraiment en direct. La relation, elle est très très personnalisée. Là-bas, ça va plus passer par les sociétés.
OK. Faut comprendre aussi de l'autre côté, ça dépend des agences pour lesquelles les courtiers travaillent. Exemple, moi, pour Remax, je dois indiquer le numéro du bureau et mon numéro de cellulaire.
D'accord.
J'ai pas le choix. On est tous rattachés à une agence. Par contre, nous sommes tous travailleurs autonomes. Donc, ce qui veut dire que toutes les dépenses, exemple, ma voiture, mon lettrage, ma papeterie, mes pancartes, mes cartes d'affaires, c'est tout à mes dépenses à moi. Ensuite, mensuellement, nous avons des frais. Dans le fond, chaque agence a ses propres frais. Il y a des frais pour la bannière, pour Remax Québec, pour des logiciels, pour des services d'adjointes, etc. Donc, c'est ça. Chaque agence a ses propres frais, dépendamment de la notoriété de l'agence pour laquelle tu travailles.
OK. Bon, et puis, celle pour laquelle toi, tu travailles est d'une notoriété assez...
Elle a fait ses preuves, disons.
Globalement, ça va plutôt bien pour elle. Maintenant qu'on en comprend un petit peu mieux sur ton statut et quelle est ta mission, est-ce que tu peux me donner juste les grosses tendances? C'est-à-dire que moi, je suis parti de Paris, le marché immobilier était en pleine révolution. C'est-à-dire que les banlieues, qui avait pas forcément grosse cote, les banlieues autour de Paris, autour des grandes villes, qui avaient pas forcément grosse cote, venaient soudain de voir leur intérêt, mais alors monter en flèche, parce qu'avec le confinement, la seule perspective d'avoir un petit bout de jardin allumait absolument tout le monde. Qu'est-ce qu'il en est ici? Moi, j'ai l'impression que le marché, il est pas mal dynamique aussi.
Je vous dirais que ce que vous venez de décrire, c'est pas mal ce qui se passe au Québec. En fait, dû à la pandémie, les gens se sont rendus compte qu'il y avait besoin de plus d'espace pour la grande majorité. Pendant la pandémie, on le sait tout, on a tout resté à la maison. Puis les gens qui habitaient à Montréal, qui étaient confinés dans un 3,5, pas de cours, c'est sûr et certain que ces gens-là rêvent d'un grand jardin, d'un secteur résidentiel où est-ce que...
Où est-ce qu'ils pourraient se réfugier si demain ils se retrouvent à nouveau confinés et comment ils puissent côtoyer un peu de nature.
Donc, on a vécu l'exode de la métropole, si on veut, à Montréal. Et ce qui a fait en sorte qu'il y a beaucoup, beaucoup d'acheteurs. Moi, je les vois, les promesses d'achat, et les gens, on voit les adresses de où qu'ils proviennent. Et c'est des gens qui venaient de Ville-la-Salle. On avait aussi des gens qui venaient de la rive nord de Montréal. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que les maisons étaient rendues plus dispendieuses dans ces coins-là. Donc, faut pas oublier que le secteur dans lequel nous habitons, qui est la ceinture sud de Montréal, c'est l'endroit où est-ce que les maisons sont les moins dispendieuses.
OK.
Si on compare avec la rive nord de Montréal. Donc, beaucoup de gens ont décidé de venir investir sur la rive sud-ouest, où est-ce que j'habite présentement, car la même maison qui vaut 400 000 peut en valoir 700 000 à Laval, puis peut-être même 800-900 000 à Montréal.
Ça fait une légère petite différence.
Exactement. Et il y a aussi le télétravail, donc les gens peuvent se permettre de s'éloigner. Aussi le fait que des familles qui se sont regroupées, on a eu mais dans les CHSLD, il y a eu des... Bref, il y a eu beaucoup de trucs qui se sont passés qui ont fait en sorte que les gens vont vont accueillir leurs parents à la maison au lieu d'envoyer un parent en RPA ou en CHSLD. C'est pas toujours
Juste, je décode. CHSLD, si vous êtes en France et que vous écoutez ce balado, c'est l'équivalent des EHPAD. Oui, nous aussi, on a nos acronymes. J'ai vu qu'au Québec, on aimait beaucoup ça, les acronymes. Et puis, ils sont particulièrement longs. mais voilà, CHSLD, c'est les centres hospitaliers pour les séjours de longue durée. Donc, l'équivalent des EHPAD. Et les RPA, c'est quelque chose d'un petit peu intermédiaire. C'est les résidences pour personnes âgées ou aînées. Je crois que ça a changé récemment.
Exactement.
Voilà. Où là, on a encore une certaine, les personnes âgées qui vont une certaine autonomie, une certaine liberté. Ils ne sont pas forcément trop contraints par des soins, mais ils ont quand même un environnement qui leur est un petit peu plus adapté. Et effectivement, en CHSLD ici, il y a eu 2-3 trucs un peu pas glamour, notamment le CHSLD.
Mais disons qu'il y a un manque, puis au niveau du gouvernement, je sais qu'on est en train de se pencher sur la question. Le plus gros problème, c'est qu'il manque d'employés. Au Québec, il manque énormément d'employés, et ça, c'est dans tous les facteurs, dans tous les métiers, si on veut, du Québec, il manque d'employés, il manque de main-d'œuvre. Mais en santé, c'est quand même primordial. On a besoin d'avoir un réseau. Ouais. Et ce qui a trait de préposés aux bénéficiaires, infirmières, médecins, il y a une très grosse pénurie. Si vous voulez venir vivre au Québec, vous avez votre place.
Ah, ça, c'est sûr. Ça va être plus que le tapis rouge, parce que là, on en parle tous les jours aux informations. Effectivement, tous ces métiers-là, mais ils sont en pénurie. Et non seulement ils sont en pénurie, il y a des places à prendre, mais ceux qui occupent les places aujourd'hui sont un peu au bout du bout. Hein. C'est-à-dire qu'on leur a souvent imposé des heures supplémentaires obligatoires. Donc, même si à la limite, ça fait un peu plus d'argent à la fin du mois, youpi, mais dans quel état? Donc, il y a beaucoup de gens qui quittent les services, qui quittent ces maisons-là. Et effectivement, je vois, pour en revenir au CHSLD, pas mal de gens aussi qui avaient de la famille en CHSLD ou qui envisageaient de mettre de la famille en CHSLD au bout d'un moment donné, qui se commencent un peu à se reposer la question de savoir est-ce que ça vaudrait pas mieux d'avoir une maison peut-être un petit peu plus grande, de faire un ou deux aménagements, mais de garder ses anciens avec soi à la maison, comme ça pouvait se faire un petit peu dans le temps, quoi.
On a vu tellement d'histoires d'horreur que c'est certain, moi, je me mets à leur place. Si ça avait été mes parents dans cette situation-là, ben, j'aurais fait quelque chose. Tu peux pas rester les yeux fermés là-dessus, là. Ça, c'est sûr.
Ouais, donc du coup, ça change énormément les besoins. Tu nous as parlé du phénomène, j'ai pu connaître aussi en France, où on va dire les centres urbains voient un espèce d'exode plutôt vers les périphéries pour essayer de retrouver un petit peu plus de mètres carrés, enfin de pieds carrés, ouais. et de verdure un petit peu, notamment en prévision d'une éventuelle pandémie ou du besoin d'agrandir un petit peu la cellule familiale, mais alors, je sais que c'est pas ton secteur, mais sorti des réseaux très urbains comme Montréal ou comme Québec, le Québec, la province est quand même assez grand. Est-ce que la hausse immobilière qu'on observe, elle est à peu près partout sur toute la province ou c'est vraiment concentré sur les gros centres urbains?
Ben, écoutez, oui, ça s'est répandu pas mal partout au Québec. Mais c'est certain que plus qu'on se rapproche de la métropole, plus que ça l'était fort. D'accord. On a vécu un marché de surenchère, ce qui veut dire que plusieurs personnes faisaient des offres sur la même propriété.
Ça, j'ai prévu de t'en parler parce que c'est un truc, ça m'a complètement halluciné ici.
Faut pas oublier que les gens vivent dans le moment présent. Donc, pendant la pandémie, les gens se disaient, ben, je veux plus d'espace. Je veux une cour, je veux plus de chambres, je veux plus d'espace. Donc, il était prêt, les gens, à faire le changement. Mais les gens se disent toujours, je veux pas trop m'éloigner parce que s'il faut que je retourne au travail, quand la pandémie va terminer, je veux pas trop m'éloigner. Mmh. Donc, c'est sûr que les villes qui sont en périphérie de Québec, de Montréal, c'est les villes qui ont été le plus touchées par les surenchères. Encore là, les gens qui habitaient sur la rive sud, sur la rive nord, voulaient avoir un chalet. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les régions aussi ont eu beaucoup d'engouement. Ils ont eu beaucoup de demandes. Et il y a aussi des gens qui ont pris leur retraite plus tôt, dû à la pandémie.
Ouais.
Des fois, les gens veulent pas faire de concessions avec leur travail. Ils disent, ben, tant qu'à ça, il me reste 2 ans à travailler. Ben,
Allez hop,
je prends ma retraite. Donc, ces gens-là ont peut-être déménagé à 5, 6, 7, 8 heures d'ici. Donc,
ouais, forcément, ça crée du changement. Tu viens de parler d'un phénomène, donc je veux...
Oui.
On va l'aborder tout de suite. La surenchère. On va faire un cas d'école. Imaginons, parce que je vous le dis tout net ici, toutes les maisons qui se sont vendues autour de chez moi depuis que je suis arrivé se sont toutes vendues en surenchère, c'est-à-dire au-dessus du prix affiché. Alors, j'aimerais juste que tu nous expliques à peu près comment ça se passe actuellement. Imaginons, je veux vendre ma maison, je vends une maison à 200 000. Boum. Je contacte Gabriel, Gabriel arrive, me conseille sur le prix, j'imagine, sur tout ce que j'ai fait et tout, et on met la maison en vente à 200 000. Qu'est-ce qui se passe pour qu'elle soit vendue plus chère?
Ben en fait, il y a quand même une préparation à faire. Vous avez beau avoir le meilleur courtier immobilier pour vous représenter, mais il faut écouter ses conseils, très important.
Je vois tes yeux qui s'allument quand tu dis ça. Je pense que tout le monde n'écoute pas tes conseils.
Ben je vous dirais qu'en général, oui. Pourquoi? Parce que j'explique aux gens, je leur dis, si vous écoutez mes conseils, c'est vous que vous aidez. À quelque part, tout le monde veut tirer profit d'une vente de maison. Ça, c'est inévitable.
But.
Donc, je dis toujours aux gens qu'il y a une différence entre vivre et vendre. Quand on vit dans une maison, bon, tu sais, il y a des trucs sur le comptoir, bon, il y a une brassée de lavage qui est pas pliée, bon, c'est normal, on est tous humains, on a toute une vie qui est très, très, très occupée. Mais quand vous vendez, ce que je dis aux gens, vous êtes mieux de prendre une semaine, des fois même deux semaines pour bien vous préparer. Le meilleur truc, et c'est gratuit ce conseil-là, là, c'est juste du bon vouloir, comme on explique, c'est de faire un beau ménage du printemps. C'est tellement le meilleur conseil, puis les gens qui suivent ce conseil-là, souvent vont vendre plus cher. Pourquoi? Parce que les gens achètent de la confiance. Quand vous achetez un véhicule, quand est-ce que le véhicule est en bordel à l'intérieur? Jamais. Donc là, les gens vont acheter une maison, une propriété qui vaut 10, des fois même 20 fois plus qu'une valeur d'un véhicule. Pourquoi qu'elle serait pas magnifique, propre et éclatante? Il faut, ça coûte rien, ça coûte du vouloir, comme que je dis.
Bon, OK, on a suivi tes conseils. La maison est nickel, elle est rutilante. Mais alors, c'est quoi ça donc, les surenchères?
Ensuite, dans le marché actuel, il y a beaucoup d'acheteurs. On dit qu'il y a à peu près 10 acheteurs pour une propriété. Ça, c'est qu'est-ce qui se passe en ce moment. Donc, faut aussi permettre une bonne collaboration avec les courtiers collaborateurs qui représentent un acheteur, ainsi que les clients qui veulent, des acheteurs tout court. Donc, il faut faire une belle plage horaire pour permettre à tout le monde de visiter la propriété.
OK.
Ensuite, c'est quand même assez fréquent. On établit une journée spécifique avec les vendeurs pour présenter les offres d'achat. Parce que dans le fond, c'est sûr que le vendeur veut avoir le maximum pour sa maison.
Ça, c'est logique.
Ça, c'est très logique. L'acheteur veut avoir le temps de la visiter aussi. Ça aussi, c'est logique. Donc, si tu veux avoir le maximum pour ta propriété, comme je disais, une bonne préparation, bien remplir la papeterie, dans le fond, faire une bonne déclaration du vendeur pour divulguer tous les points de la maison, qu'ils soient positifs ou négatifs, il faut informer son acheteur. Ensuite, faire la plage horaire des visites. Et ensuite, regarder les offres avec le courtier et décider laquelle qui a les meilleures conditions, le meilleur prix et les meilleures dates pour vous.
OK. Donc, si je me mets dans la position de l'acheteur éventuel, et tu me dis si je dis des bêtises, l'acheteur éventuel, donc j'ai visité une maison qui me plaît, cette maison est à 200 000. Mais toi, imaginons que tu es mon courtier, est-ce que c'est comme ça que ça se passe? À savoir, tu me dis, écoute Jean-Michel, en ce moment, toi, cette maison-là, tout le monde va se l'arracher parce qu'elle n'est pas forcément à son bon prix, est-ce qu'elle est belle, elle a bien été rangée, tout ça et tout. Des acheteurs partout, il va y avoir des visites toute la journée. Je te conseille de faire une offre au-dessus du prix. Comment est-ce qu'on en arrive? Ce que je veux comprendre, c'est comment est-ce qu'on en arrive à une maison qui est positionnée, hein, sur un prix, à dire non, moi, je vais faire une offre au-dessus du prix. Pourquoi je te pose la question et pourquoi j'insiste? Parce que j'ai acheté plusieurs maisons dans ma vie, enfin, fait pas mal de transactions immobilières, et j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais jamais. Alors, c'est vrai que c'était d'autres marchés. C'est toujours l'inverse, d'ailleurs. En général, nous, en France, en tout cas, on a la légère tendance, les vendeurs ont une légère tendance à, on va dire, volontairement surestimer leur prix de vente pour dire, de toute façon, on va toujours me proposer un petit peu moins parce qu'on veut toujours négocier un peu. Donc, je vendrai à peu près au prix voulu. Mais jamais personne n'imagine qu'il va pouvoir vendre au-dessus du prix qu'il a demandé, quoi.
Écoute, si je recule, excuse-moi, de 3 ans, mettons qu'on se met en 2018. Supposons que ta maison vaut 700 000 $. Ben, moi, ce que j'aurais fait, je l'aurais affiché à 715 000 $ pour se garder une marge de négociation de 10, 15, 20 000 $.
OK, c'est exactement le même.
Ça, c'est en 2018. Bon, pandémie arrive, 2020, 2021, c'est la folie. Donc, ce qu'on fait, on la met à un prix selon les comparables, oui, effectivement. Mais après ça, c'est l'offre et la demande. J'ai 10 acheteurs. Donc, les gens visitent la propriété et à chaque fois que j'ai la confirmation d'une offre d'achat, parce qu'on doit collaborer entre nous, les courtiers. Donc, si D'accord. un courtier me dit, Gabriel, mon client va remplir une offre d'achat, parfait. J'ai le devoir, en tant que courtier, d'informer tous les courtiers.
Ah oui?
Oui, pas du contenu. Mais comme quoi, j'ai une offre d'achat. J'en ai une deuxième. Cher courtier, nous sommes rendus à 2 offres d'achat. 3, 4, 5, bon.
Et c'est ça qui peut amener, du coup, les courtiers oui. restants à se dire, OK, vu qu'il y a déjà plusieurs offres d'achat, il faut qu'on soit les mieux disants et on va peut-être faire passer au-dessus du prix demandé.
Ben, comment? C'est sûr et certain, mettons, on visite une maison ensemble, Jean-Michel, puis tu me dis, Gabriel, combien est-ce que je devrais offrir? Moi, sachant qu'il n'y a aucune offre de déposer encore, moi, ce que je vais te proposer, offre le prix demandé.
OK, normal.
Okay? Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que le vendeur s'attend souvent à avoir des excellentes offres. OK? Tu n'arrives pas dans un marché actuel et tu dis, ben, je t'offre 20 000, 30 000 de moins que…
Non, c'est fini.
Si la maison est récente sur le marché, tu ne peux pas faire ça. OK? Donc, et par après, si… Moi, je suis informée qu'on est rendu à 2, 3, 4 offres. À ce moment-là, je t'appelle et je te demande, veux-tu bonifier ton offre? Avant l'acceptation, vous avez D'accord. le droit de bonifier. Okay. Autant au niveau conditions que prix. Donc, tout le monde est sur le même piédestal.
C'est vraiment la compétition, quoi.
C'est une compétition aveugle, faut pas oublier. Donc, la seule personne qui est au courant des offres, c'est le courtier inscripteur et les vendeurs.
Et les vendeurs, évidemment, oui.
Mais d'un autre côté, pendant la pandémie, ben on reçoit les offres majoritairement par courriel. Donc, on ouvre les offres toutes en même temps, ça c'est sûr et certain. Puis moi, avec mes vendeurs, j'analyse. Des fois, c'est pas juste une question de prix. C'est une question de dire. OK, est-ce que les inclusions vous conviennent? Est-ce que les dates inscrites vous conviennent?
Inclusion, c'est quoi une inclusion?
Une inclusion, c'est les inclus dans la vente.
D'accord.
Donc, si tu inclues ton frigo, ben tu l'écris, puis okay. c'est ça.
Ouais, donc, tous ces détails-là, les modalités de paiement aussi, j'imagine, qui peuvent
modalités de paiement, est-ce que l'acheteur a été chercher une préapprobation auprès de son institution financière? Très important. Faut toujours, ça c'est tout. Le message est pour les acheteurs, c'est très important en passant. Dès le moment que vous décidez d'entamer des procédures pour acheter une propriété, il faut aller chercher une préapprobation
ouais.
sur papier. Pourquoi? Faut que tu te dises que le vendeur ne te connaît pas.
Et il te fait pas confiance.
T'as beau faire un gros salaire ou vice-versa ou pas, le vendeur ne te connaît pas. Il sait pas c'est quoi tes habitudes de vie. Il sait pas si t'es un fan d'auto, que t'as 10 autos, que t'es encore sur prêt. C'est important d'aller chercher une pré-approbation pour montrer au vendeur, regarde, ta maison vaut 700 000 et je suis éligible pour un prêt de 700 000. Ça démontre du sérieux. Puis aussi, ben quand tu vas aller chercher une approbation pour une maison au final, tu vas avoir fait la moitié du boulot car la banque elle a besoin de certains papiers pour t'octroyer un prêt, c'est normal.
Normal. Un beau sourire ne suffit pas. Ils sont pas drôles, non. Ces banquiers. Hein.
C'est pas tes amis.
Super, je comprends mieux le phénomène de la surenchère qui, du coup, est plus un phénomène, on va dire, conjoncturel mm-hmm. que vraiment quelque chose propre au Québec. C'est plus clair. Pour continuer l'émission, j'aimerais bien que tu m'aides pour mieux comprendre le verbatim, les mots qui sont aussi utilisés parce que c'est pas les mêmes mots, il y a des choses c'est différent. Oui. Par exemple, tu vois chez moi, enfin dans mon ancien chez moi, parce que maintenant mon chez moi est ici au Québec, mais dans mon ancien chez moi, on loue des appartements, voilà. Ici, on loue des condos. Voilà. Donc, voilà, cherchez pas un appartement, ça se trouve pas. On trouve ici des condos. Et quand on cherche des condos, vous comptez ici pas comme chez nous non plus. Ici, c'est que des demi. Des condos 3,5, 2,5, 1,5. Alors moi, j'ai toujours pas compris ce qu'était la demi-pièce, mais.
C'est la salle de bain.
La salle de bain, c'est une demi-pièce. Voilà.
Oui, je sais pas pourquoi, mais non, mais le pire, c'est que c'est une très bonne question. Puis non, je sais pas pourquoi demi, mais pourquoi on dit demi? Pourquoi on dit ben pas oui. Deux chambres, salon, cuisine, salle de bain?
Voilà. Moi, c'est vrai que les premières fois quand je regardais les annonces, hein, quand on était ensemble, je comprenais pas les répartitions des pièces. Et c'est pareil ici. Tu me dis si je me trompe encore. Mm-hmm. Quand on dit un 3,5, on est bien sur un 3 pièces. Plus salle de bain, mais toutes les pièces sont comptées.
Oui.
En France, par exemple, on va pas compter la cuisine.
Ah, pour vrai?
Eh oui, si on te dit un deux pièces, par exemple, ça ne compte pas la salle de bain, ça ne compte pas la cuisine. On va considérer que des pièces dites à vivre. Donc, ça va être chambre, salon. Ça peut éventuellement être un salon, salle à manger. Qu'on compte comme deux pièces, deux chambres, si directement t'as juste un couloir ou quelque chose, mais la cuisine n'est pas affiché. En gros, on part du principe que ça va de soi.
Ok.
T'as forcément une cuisine. Donc, en gros, on l'enlève du scope. Et on parle que du reste. Donc, c'est pour ça que le français, je sais pas trop comment c'est en Belgique et en Suisse pour les autres francophones qui viendraient ici. Mais quand on regarde les annonces au départ, faut venir faire attention à ce que on voit un 3,5, par exemple, et on va se dire, oh là, c'est trop grand pour ce dont j'ai besoin. Et en fait, non, c'est pas trop grand, parce que un 3,5, c'est grosso modo un salon, une cuisine et une chambre. Voilà, donc il faut...
Je vais faire une parenthèse. Là.
Vas-y.
C'est sûr que pour un Européen, tout est trop gros ici. Tu sais, quand on dit « thing big »,
oui.
Tout est gros ici. Les voitures sont plus grosses, les maisons sont plus grandes.
Les voitures sont pas plus grosses. Les voitures sont énormes! Okay. C'est des paquebots.
On aime l'espace, on aime, écoute. Puis moi, je trouve ça fascinant quand je vais en Europe. Dans le fond, je me rends compte qu'on est tellement matérialiste en Amérique, mais c'est la publicité, c'est comme ça qu'on a été élevé. Quand je vais en Europe, je me dis, mon Dieu, c'est vrai que c'est pas nécessaire d'avoir trop grand. C'est pas là que tu vas aller rechercher. Je sais pas.
Oui, mais c'est aussi très adapté. À la configuration presque géographique du pays. Par exemple, ma fille, chers auditeurs, vous allez tout connaître de ma vie personnelle. Ma fille est retournée en France il y a pas très longtemps avec son ami québécois qui ne connaissait pas Paris et la France et tout. Et lui, naturellement, il aurait voulu louer pour se déplacer une grosse voiture comme on a ici. Hein. Il a un pick-up et il a très très vite compris que ça allait juste pas être possible. Outre le fait qu'il y en a pas énormément, c'est mm-hmm. surtout que je défie quiconque de circuler dans Paris avec un pick-up. Les rues parisiennes, par exemple. Pour la plupart, je parle pas du périphérique, mais elles ont été conçues pour des charrettes tirées par des chevaux. Elles n'ont pas été conçues pour des énormes voitures comme ça, parce que c'est un vieux pays. Voilà, il y a des routes très tortueuses qui tournent dans tous les sens. Ici, on voit bien, comme aux États-Unis, qu'on est sur un pays beaucoup plus jeune et aussi beaucoup plus vaste. Donc, l'espace n'est pas un problème. D'ailleurs, moi, je le vois ici, par exemple, il y a souvent des demi-sous-sols, effectivement, mais après, il y a un étage. C'est assez rare de trouver des maisons à multiples étages. La dernière maison où j'étais sur Paris, elle était répartie sur 3 étages parce que grosso modo, le mètre carré au sol est tellement hors de prix que dès que t'en as réussi à en choper 10, tu montes plein d'étages dessus pour essayer d'avoir à peu près le nombre de pièces qu'il faut, parce qu'on est très, très contraint. Ici, on voit bien que l'espace est pas un souci. On le voit aussi sur les routes. Les routes sont super larges. Il y a des autoroutes de partout. Au minimum, il y a 4 voies. Enfin, c'est, puis sur chacune des voies, on pourrait presque passer à 2. Enfin, à 2 voitures européennes, j'entends, parce que pas des voitures d'ici. Mais c'est vrai que le contraste est très surprenant. Je discute beaucoup avec des Québécois, bah, comme toi, qui me disent quand ils arrivent à Paris, mais c'est quoi votre toute petite voiture avec votre petite tasse à café? Voilà. Et ici, c'est sûr que la tasse à café, elle fait 1 demi-litre et la voiture, elle est absolument gigantesque, quoi. Et d'ailleurs, on trouve beaucoup de voitures ici, même de marques européennes, qui ne sont pas vendues en Europe.
Ah oui?
Ouais. Pas. Par exemple, BMW fait ici le, si je dis pas de bêtises, le X7.
Oui.
Qui est, voilà. Le X7, à ma connaissance, n'est pas vendu en Europe. Ça s'arrête au X5.
Mais les compagnies n'ont pas construit les routes aussi, encore. Bah oui. Ça, c'est parfait, là.
Donc ça, c'est plutôt bien. Mais c'est vrai que tout est grand ici, hein. Tout est grand. Après, il y a des petits particularismes que je connaissais pas non plus. Et, on retrouve beaucoup ici de salles familiales dans les maisons.
Oui.
Quand on est dans les maisons.
C'est un salon de sous-sol.
Voilà.
C'est tout.
Mais du coup, on se retrouve avec des maisons qui sont pas forcément toutes, on va dire, gigantesques, mais dans lesquelles il y a 2 salons à 2 étages différents.
Mm-hmm.
C'est étonnant. Pour moi, c'est étonnant.
Ben, écoutez, c'est sûr et certain qu'ici, t'as une minute. C'est sûr, plus que t'as de l'espace, plus t'accumules des choses. Donc, oui, ça arrive des fois que t'as même 2 salons sur le même étage. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont faire un milieu salle de jeu pour les enfants, puis un milieu salon pour la famille, en fait, si on veut, là. Mais on aime beaucoup l'espace. Donc, en résumé, non, c'est...
Mais c'est souvent dans les maisons que j'ai pu voir, et j'ai eu l'impression... Et donc, dans les maisons, hein, souvent, il y a ces 2 pièces-là. Il y a le salon principal qui est proche de l'entrée, et sur le demi-sous-sol, parce que les maisons sont à demi-enterrées, on retrouve souvent des chambres au demi-sous-sol et tout, il y a souvent cette salle familiale. Et le constat, c'est que j'avais l'impression que c'était vraiment la salle à vivre. C'est celle dans laquelle on retrouvait le poste de télévision, souvent celle dans laquelle on retrouvait le foyer, la cheminée, alors que le salon de rez-de-chaussée, lui, était plus un salon, j'allais dire, de réception. On trouvait simplement des canapés, une table basse et de quoi recevoir et discuter avec des amis. Mais souvent, je trouvais pas de télévision. Souvent, je trouvais pas de foyer ou de choses comme ça. Plus quelque chose de l'ordre d'apparat. Et c'est très étonnant parce que dans ma conception à moi, qui est forcément très européenne, c'est exactement l'inverse. Et pour ne rien te cacher, ici à la maison, que tu connais bien, parce que c'est grâce à toi qu'on l'a trouvé, on a une salle familiale. On n'arrive toujours pas à l'utiliser. C'est-à-dire que on n'a pas le réflexe de se dire, si on allait au demi-sous-sol pour se mettre dans la salle familiale. On a mis une télé dans le salon, là, qui est juste à côté de la cuisine, et puis.
En fait, ça dépend toujours de la grandeur de la famille aussi. Tu sais, si vous êtes 3 à vivre ici, vous allez majoritairement vivre au rez-de-chaussée. Ça, c'est quasiment la plupart des gens. Quand vous avez une grande famille, puis il y a beaucoup de familles migrantes, dans le fond, qui se jumellent plusieurs familles ensemble. Donc, ce qui fait que des fois, elles sont même 2 par chambre à coucher. Puis les gens vivent en harmonie. C'est comme ça qu'ils ont été élevés. C'est comme ça qu'ils vivent. Donc, la maison est utilisée à son plein potentiel. Mais c'est sûr que si vous êtes 3 personnes, ben vous allez sûrement vivre au rez-de-chaussée. Oui, c'est une idée d'aller se faire un feu au sous-sol, une journée d'hiver, changer d'ambiance, ça peut être une bonne idée. Donc
oui, parce que ici en hiver, je ne sais pas si vous le savez, chers auditeurs, mais il fait légèrement froid. Donc faire du feu, ça peut être pas mal.
Mais faut trouver les plaisirs à l'hiver. Moi, j'étais une personne qui aimait pas l'hiver, puis non, j'aimais pas. Ben, tu sais, c'est sûr, tempête de neige, oui, ça peut être plaisant, mais rendu à mon âge, si je veux pas, je me suis trouvé une passion, faire du ski. Je me suis toute rééquipée en ski cette année.
Ski de fond ou ski alpin?
Alpin.
Bien.
Donc, faut s'organiser pour aimer l'hiver. Faut se trouver des activités, aller prendre des marches, aller... Il y a plein de sentiers ici. On en a des arbres ici, on n'en plus finir. Il y a des centres, comme nous, exemple, à Châteauguay, il y a le centre Fernand Séguin. On peut faire l'observation des oiseaux. Il y a une piste pour faire du ski de fond. Il y a beaucoup de choses au Québec qui font en sorte que tu peux l'apprécier l'hiver.
Ouais, on sort un peu du domaine de l'immobilier, mais je suis assez d'accord. Moi, l'hiver est assez est vraiment assez plaisant déjà parce que c'est un vrai hiver. Et pour moi qui viens de France, on a, je trouve un petit peu perdu le fil des saisons. Alors, c'est comme ça, hein, réchauffement climatique, tout ce qu'on veut imaginer. Mais ici, on retrouve des vraies saisons. Alors certes, l'hiver est un poil long. mais c'est un vrai hiver. Mais par contre, tous les attraits de l'hiver sont accessibles facilement.
Oui.
Je m'explique. Si on est à Paris, si on est à Bordeaux, si on est à Marseille, dans des grandes villes, dans des grands centres urbains, et qu'il devait y avoir un hiver comme ici, bah mine de rien, il faudrait 2, 3, 4, 5, 6 heures de voiture. Donc toute une organisation pour pouvoir se dire, allez, je vais profiter de ce bel hiver et je vais aller skier. Moi ici, toujours sur la rive sud, j'ai envie de me dire, j'irai bien skier en fin de journée. Je pose les skis dans la voiture et 25 minutes plus tard, je suis au pied des pistes. Et je skie vraiment. Ça change tout. C'est-à-dire que c'est marrant. Venez à Montréal et vous verrez dans le centre-ville, l'hiver, dès que vous vous rapprochez un tout petit peu du plateau et du Mont-Royal, vous allez voir les gens dans la rue qui sont avec leur ski alpin et qui se rendent à pied jusqu'au Mont-Royal parce que voilà, en plein centre-ville, ils vont aller faire du...
Je savais même pas que tu pouvais faire du ski.
Du ski de fond, pas du ski alpin, du ski de fond. Non, excuse-moi.
Je sais pas où ta piste, là, mais je suis pas au courant.
Alors, j'ai pas fouillé. Non, c'est du ski de fond, mais on les voit et tout, dans tout le, sur le Mont-Royal et tout ça et tout. Donc, voilà. Et ça, on est en plein centre-ville. Donc,
beaucoup de patinoires aussi.
Énormément, ouais.
Patinoires extérieures, tu sais, le hockey, c'est tellement populaire ici que les villes investissent beaucoup. Des patinoires extérieures couvertes qui peuvent aussi utiliser l'emplacement pour faire des activités, des marchés, des endroits pour faire des spectacles l'été. C'est vraiment les villes focusent beaucoup là-dessus.
Et d'ailleurs, messieurs, dames des villes, si vous pouviez faire des petites patinoires spécifiques pour les nouveaux arrivants, ça serait top parce que moi, je suis allé à la patinoire, je suis absolument nul. Enfin, c'était effroyable à quel point je tiens pas sur des patins. Et on voit n'importe quel Québécois ici, mais de tout âge, mais qui va à une vitesse, c'est comme s'ils étaient nés avec des patins aux pieds, tellement ils vont vite. Enfin, ça donne le tournis. Ça envoie. Puis après, évidemment, on voit un match de hockey, on comprend ce que c'est que tenir sur des patins.
C'est pas donné à tout le monde, non. Mais il y a des jeunes qui commencent très, très jeunes.
Ah ouais, je vois, mais c'est moi, il m'épate, hein. Il m'épate et tout, mais je vois que bon, la petite commence à s'y mettre. Donc voilà. Revenons à l'immobilier. Il y a d'autres mots que j'aimerais bien que tu m'expliques parce que je crois que c'est la perlite. Tu nous as alerté là-dessus. Perlite, un truc comme ça. Dans les soubassements de la maison, qu'il fallait faire attention. Tu as des
la pyrite.
Pyrite, ouais, pyrite, perlite. Tu me regardes bizarre depuis tout à l'heure en me disant qu'est-ce qu'il dit celui-là. J'ai dit perlite, c'est pyrite. Oh.
Ben dans le fond, c'est sûr que peu importe, dépendamment du secteur où est-ce que vous achetez une maison, il y a plusieurs facteurs à regarder. Comme vous avez acheté dans le coin de Saint-Constant, faut toujours analyser le remblai qui se retrouve sous la dalle de béton. Ce que ça veut dire, c'est que la pyrite, c'est une sorte d'isolant qui se retrouve dans le remblai sous la dalle de béton et qui peut gonfler selon l'indice potentiel pétrographique de gonflement. Donc, l'humidité, l'eau peut faire en sorte que ça gonfle si le niveau est trop élevé et ça peut affecter la structure de la propriété. Bon, faut pas s'alarmer parce que des cas de pyrite, il y en a, mais c'est pas partout. Okay, c'est pas en grosse majorité. L'importance quand vous achetez une propriété au Québec, c'est de cibler le secteur dans lequel que vous désirez acquérir une propriété. Okay? Pourquoi? Parce que chaque courtier immobilier travaille majoritairement un secteur.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ce qui fait en sorte que le courtier immobilier devient, entre guillemets, spécialiste de sa région. Vous comprenez ce que je veux dire?
Très bien. Et normalement, de ce genre de problèmes qui peuvent être très locaux sur des matières, sur des choses comme ça.
Je vous donne un exemple. Si je vends 80 maisons par année à Mercier-Châteauguay-Saint-Constant et que j'en vends 2 par année dans le coin de Terrebonne. Terrebonne, c'est au nord-est de Montréal. Donc, 1h15, bon, ça dépend du trafic, là, mais bon.
Ouais, 1h15 d'ici. Très variable.
On s'entend que à 1h15 de chez moi, j'y vais tellement peu souvent. De un, c'est difficile de conseiller les écoles, les parcs, les quartiers. Je sais pas, moi, si le quartier est sécuritaire ou si c'est un quartier familial, est-ce que c'est un quartier qui s'est déjà passé quelque chose de grave ou peu importe. Et aussi, je connais pas les problèmes environnementaux. Oui, tout le monde peut s'informer, mais il y a rien de mieux que l'expérience.
Ouais, du vécu, hein.
Le vécu que tu as fait sur le terrain.
OK. Je comprends.
Fait que c'est ça.
Bon, vaut mieux s'adresser à ceux qui savent. Les petites spécificités aussi ici. Rigolons un peu. Parlons de la taxe de bienvenue.
Oui.
Bienvenue.
Ministre, bienvenue.
Alors voilà, ici, quand on achète une maison, on doit s'acquitter de ce qu'on appelle la taxe de bienvenue. Alors c'est marrant parce que bon, elle est déjà assez salée, hein, la taxe de bienvenue. Donc voilà. Et puis je me suis dit, ils ont de l'humour quand même parce que là, voilà, il y a une taxe à l'achat, ils appellent ça une taxe de bienvenue. C'est un peu concasse. Et en fait, rien à voir avec le mot bienvenue.
Exactement, c'est ça le pire.
C'est parce que c'est
le ministre bienvenue. Dans
il
le
avait
milieu
choisi son nom, lui.
Des années 70, il y a un ministre qui a eu une merveilleuse idée d'exiger une taxe de bienvenue aux gens qui déménageaient d'une propriété. En fait, qui achetaient une propriété, c'est ça que je veux dire.
C'est ça.
Et ce, même si vous déménagez dans la même ville. C'est ça qui est effrayant.
C'est ça qui est dingue. C'est absolument dingue.
Donc, si tu déménages ici puis tu achètes la propriété voisine, tu vas te retrouver peut-être à payer 5 000, 4 000, dépendamment du prix d'achat.
Donc, très important de l'avoir provisionné avant, en tout cas de l'avoir pensé, parce que ça fait partie des coûts qu'on va devoir payer très rapidement. Il y a la maison qu'on achète, la propriété, mais il y a aussi cette taxe de bienvenue.
En fait, la taxe de bienvenue, le calcul peut se faire sur Internet, parce que ça dépend des brackets, dans le fond, de 0 à 50 000 $, il y a un frais après ça, et ainsi
d'accord.
de suite. Et c'est basé sur le montant le plus cher entre l'évaluation municipale et le prix payé.
Comment t'es parfaite, tu fais exactement le lien, la transition sur la question suivante, sur l'évaluation municipale.
Ah boy, ok. Mais bref, les gens ont 6 mois dès le moment qu'ils reçoivent. Dans le fond, excuse-moi, je recommence. La ville envoie au nouveau propriétaire l'état de compte de la taxe de mutation, c'est le nom qu'on appelle, dans les 6 mois suivant l'acte notarié. La publication au registre foncier. Et quand vous recevez l'état de compte, vous avez 30 jours pour acquitter en entier la facture.
Sympa, bienvenue.
Bienvenue.
les autres taxes, c'est justement, et c'est pour ça que je veux parler de l'évaluation municipale, parce qu'après, c'est toujours si je suis dans mon optique de comparaison, ici on a des taxes municipales et des taxes scolaires qu'on s'acquitte tous les ans. Alors, première chose, même si on n'a pas d'enfants qui vont à l'école, on paye la taxe scolaire tout pareil. Ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir des enfants scolarisés. Et la taxe municipale. Et grosso modo, ça varie hein, selon les villes, mais c'est à peu près 1% de la valeur de votre bien tous les ans. Alors, ça a l'air de rien, mais ça veut dire qu'au bout de 10 ans, vous avez repayé en taxes l'équivalent de 10% de votre propriété, ce qui veut dire que ce sont des montants assez conséquents. En tout cas, moi, pour comparer par rapport à ce que je pouvais payer en France en taxes foncières, ce qu'on appelle taxes foncières quand on est propriétaire, et taxes d'habitation quand on habite simplement, ce qui veut dire que quand on est propriétaire et qu'on habite son bien, on paye les deux. Mine de rien, c'est quand même pas mal plus cher. Pas mal plus cher ici. Et tout ceci se base sur une évaluation municipale. Et j'ai découvert ça dans toutes les notes que tu nous avais présentées pour choisir les maisons. Il y avait les prix des maisons qui étaient demandés par les vendeurs, mais il y avait l'évaluation municipale. Ici, toutes les maisons, tous les biens ont une évaluation municipale.
Oui, effectivement. On appelle ça un rôle triennal. La ville mandate une firme d'évaluation pour venir évaluer les propriétés de la ville. En fait, pour faire une histoire courte, la ville va, mettons, si vous avez un secteur de 1000 propriétés, l'évaluateur va aller voir en général peut-être une centaine de maisons. J'y vais à peu près, là. Et va faire une statistique pour émettre un montant dans le secteur. C'est ça, chaque propriété a sa valeur municipale. C'est par rapport au terrain et au bâtiment. Ça, c'est inévitable. Mm-hmm. Et à chaque 3 ans, ce montant-là est réévalué par une firme d'évaluation.
OK. Il y a aussi un truc, et tu me dis là aussi si je me trompe, mais dès qu'on va faire la moindre intervention, a priori, sur la maison, mais vraiment la moindre, il faut demander un permis à la ville, parce que ça leur permet de aussi, entre autres, de déjà toucher un peu d'argent quand on demande un permis, parce que c'est payant, pas grand-chose, mais c'est payant, et éventuellement de réévaluer la taxe municipale si la maison a été valorisée pour quelque chose. Alors, ça s'entend si on fait dans mon optique de comparaison, ça s'entend pour des travaux majeurs. Par exemple, je décide de rajouter un étage à la maison, je rajoute 100 mètres carrés de maison, je comprends qu'elle vaut beaucoup plus cher et que la taxe municipale soit associée. Mais, exemple qui m'a surpris, dans la maison où on a une piscine en extérieur, qui est une piscine hors sol, et on a dû la remplacer. On l'a remplacée par sa petite sœur jumelle, même taille, même dimension, tout pareil, rien de neuf. Mais pour ça, alors que c'est juste, ça change rien. On remplace juste quelque chose qui ne marche plus, parce qu'en l'occurrence, elle était rouillée, par quelque chose qui n'est pas rouillé, qui est neuf. Il faut demander une autorisation municipale. Et moi, et effectivement, dès que je vois des petites choses, je vais sur le site internet, je me rends compte qu'il y a énormément d'autorisations municipales à demander pour justement que cette évaluation municipale soit toujours, excuse-moi pour l'anglicisme, up to date.
Ouais.
Mais vraiment, voilà, vraiment à jour. Et c'est aussi des choses, pour moi, surprenantes, cette présence réglementaire assez forte, au final, parce que je connaissais les permis de construire ou les permis de modification, mais la réalité, c'est que ça s'adaptait qu'à des choses assez...
Ben, Jean-Michel, c'est sûr et certain que c'est pas juste pour aller chercher de l'argent. Souvent, si c'est pour s'assurer que les réglementations sont respectées. Dans ton cas, c'était une piscine. Ils sont très sévères sur les piscines parce qu'il y a eu énormément de noyades.
Ouais, j'ai vu ça.
Et c'est un événement qui doit être tellement malheureux, on va se le dire, là. Et ils veulent s'assurer que tout soit respecté. La hauteur des clôtures alentour de la piscine, que tout soit sécurisé. Exemple, la porte du balcon qu'elle donne sur la piscine, qu'elle se verrouille automatiquement, qu'elle se ferme, qu'elle se clenche automatiquement. Il y a eu trop d'accidents. Donc, c'est sûr que sur ces points-là, ils sont à cheval sur les règlements et les demandes de permis. C'est sûr et certain.
C'est à la fois assez, intrusif et en même temps assez rassurant au final, parce que c'est vrai que, et notamment pour quelqu'un comme moi qui arrive, et pour ceux qui nous écoutent et qui feraient le même parcours, il y a effectivement beaucoup de réglementations qu'on ne connaît pas forcément, qu'on ne peut pas deviner, qui pour certaines sont propres à la culture, d'autres simplement propres aussi à l'environnement. On est dans un environnement différent, notamment régi par la météo, et c'est aussi assez rassurant de pouvoir s'appuyer sur des gens qui eux la maîtrisent et qui te valident tout ça.
Il y a tellement de règlements, tu sais, on parlait de piscine, puis tu sais, les piscines creusées. Anciennement, Imaginez-vous, il y avait des droits acquis. Les piscines qui dataient de je pense que c'était du 30 octobre, avant 30 octobre 2010, vous n'étiez pas obligé de clôturer la piscine creusée si elle avait été creusée avant cette date-là. Imaginez-vous. Aujourd'hui, quand tu t'achètes une piscine creusée, il oblige de mettre une clôture à une certaine hauteur en plus.
Oui, ça se comprend.
Et là, ils ont aboli ce règlement-là. Ils ont dit tout le monde, d'ici 2023, devront mettre une clôture en dessous d'une piscine creusée. Et vous voulez mon avis? Moi, je pense que c'est une bonne chose. Parce que comment tu peux mettre un droit acquis sur de la sécurité?
Oui, enfin, il n'y a pas de logique. C'est soit à la limite, tu estimes que c'est l'affaire de chacun et
c'est ça.
Et voilà. Mais si tu estimes qu'il est important qu'en termes de sécurité, il y a un environnement sécuritaire autour de la piscine, le fait qu'elle date d'avant 2010 ou d'après 2010 ne la rend pas plus ou moins sécuritaire. Donc,
exactement,
dans les deux cas, c'est pareil. Oui, je te comprends. Je vois la maman qui s'inquiète pour les enfants. Mais vraiment, la piscine est... C'est vrai que tu as raison, hein, parce que cette année, aux informations ici, on en a beaucoup parlé. Et ça ressemblait à une petite hécatombe, hein, quand même, effectivement. On en avait beaucoup parlé. Et étonnamment, d'ailleurs, pas que des jeunes enfants, aussi des adultes, mais qui se baignent seuls, sans personne à côté, et qui, parce que trop de soleil, parce qu'il a fait très chaud et très beau, voilà, trop de soleil, une insolation, hop, un malaise, et pop, il se noie. Enfin, oui, c'est... Donc c'est bien effectivement de qui est ce petite chose là. Revenons sur des choses un poil plus fun. Dans les particularismes aussi. Ah oui, il y a un truc qui m'a surpris, je te l'avais pas dit.
Oui.
Alors maintenant je sais, hein. Hydro-Québec.
Oui.
Moi j'étais persuadé que c'était le montant de la facture d'eau. Et ça s'appelle Hydro-Québec. Hydro-Québec, pour moi, hydro, c'est de l'eau. Donc, je me suis dit, c'est pas mal quand même comme facture d'eau et tout. Et en fait, non. Bon, alors, si vous écoutez le balado, on en a souvent parlé d'Hydro-Québec parce que c'est une fierté nationale ici. Donc, vous devez le savoir maintenant. Mais sinon, sachez que c'est en fait l'hydroélectricité. Voilà, c'est un monopole au Québec. Donc, si vous voulez de l'électricité, il va falloir passer par Hydro-Québec.
Effectivement.
Et voilà. Et ça n'a rien à voir. Enfin, si, ça a tout à voir avec l'eau, mais rien à voir avec l'eau à la maison. Et par contre, bonne surprise, l'eau à la maison est inclue dans les taxes municipales. Ce qui explique que tout le monde ait des piscines. À mon avis.
En fait, il y a certaines villes au Québec qui ont un compte séparé pour les taxes d'eau. Puis il y a des villes qui l'incluent dans le compte de taxes.
Alors moi c'est inclus, mais je pensais que c'était pareil toi pour tout le Québec.
Non,
je pensais
c'est
vraiment
pas pareil
que c'était
partout.
Un truc provincial.
Il y a des gens qui sont ils ont un compteur d'eau. Donc selon la consommation d'eau, tu reçois un compte de taxes pour la consommation que tu as utilisée. Mais moi exemple dans ma ville c'est sûr que si tu as une piscine, tu as un montant, je crois que c'est à peu près 50$ de plus par année.
Mm-hmm.
Mais en même temps, tu utilises 60 000 litres d'eau pour remplir une piscine, donc.
Ouais, et puis régulièrement, faut en remettre un petit peu et tout, voilà, donc. Ça envoie pas mal au niveau de la dépense. Mais c'est vrai que toi, par exemple, moi, j'ai été très surpris, dès qu'on s'est intéressé, aux maisons ici, en me disant, mais c'est pas possible, mais dès qu'il y a une maison, il y a une piscine. Mais il y a...
De plus en plus aussi, avec la pandémie, les gens se sont gâtés. Les gens ont investi beaucoup dans leur propriété parce que, un, ils pouvaient plus voyager. Deux, parce que, ben, écoute, les gens qui se sont rendus compte qu'ils étaient bien chez eux, on dit, on va investir dans notre chez nous. Les gens veulent être autonomes aussi. Mm. Les gens veulent, ils ont été tellement privés avec la pandémie qu'ils se disent, regardez, je vais me gâter cette année, là. On va mettre un bon pavé uni avec une belle piscine, un beau gazebo, un spa. Toutes les compagnies de piscines ont été surchargées. Je crois que au mois de juin, quelqu'un qui voulait avoir une piscine pour 2021, c'est impossible.
Alors oui, ça m'étonne pas, parce que moi, effectivement, pour remplacer la nôtre qui était défectueuse, je m'y suis pris. Je crois en octobre, j'ai dû la réserver en octobre, fin octobre 2020, pour qu'elle soit installée pour 2021, pour cet été-là. Donc elle a été installée au mois de mai, mais. Fallait pas s'y prendre plus tard, parce qu'effectivement, tout le monde en a voulu. Mais même avant, j'avais vraiment remarqué qu'il y en avait, toujours par rapport à la France, qu'il y en avait vraiment beaucoup. Et je me suis dit après, bah, le fait que, entre guillemets, l'eau soit si peu chère, puisque inclut une légère surtaxe et tout, pouvait être un élément d'explication, parce que sinon, si on doit simplement faire tourner un compteur d'eau, enfin, moi je sais que...
Ben c'est sûr que ça a une incidence, c'est certain, parce que je me suis déjà fait dire par par un client qui venait pas du Québec, il me dit, je comprends pas pourquoi vous avez des piscines au Québec, votre été dure en moyenne 2-3 mois par année.
Mais il a raison, c'est vrai que c'est très surprenant au début.
Oui. C'est vrai, sauf que, écoute, c'est vrai que l'eau, ça coûte rien ici. Puis...
Les plus grandes réserves d'eau du monde sont au Québec, hein, donc forcément ça aide un peu. Voilà, c'est aussi pour ça qu'Hydro-Québec est si performant, puisque ça permet de faire de l'électricité à base de barrages hydroélectriques.
Mais ça, c'est un avantage, parce que
c'est énorme.
L'électricité, ça coûte pas cher ici.
Et oui, ça coûte vraiment pas cher, et c'est de l'électricité. Alors verte, pas ouvrir le débat sur ce qui est vert et ce qui est pas vert, mais en tout cas sur les, c'est l'un des deux seules manières de faire de l'électricité pilotable et sans CO2. C'est l'hydroélectricité, et là pour le coup il y en a à revendre au Québec, donc c'est particulièrement pas cher. C'est appréciable, parce que je vous assure que les radiateurs, faut les faire tourner un petit peu l'hiver quand même, donc
effectivement. C'est vrai.
Ça envoie plutôt pas mal. Dernier élément qui m'a surpris, alors depuis je comprends parfaitement pourquoi, dans les maisons au Québec, à de très rares exceptions près, il n'y a pas de volet. Je vois qu'il marche. Je pense que je suis pas le premier de le faire remarquer.
Pour nous, c'est un produit de luxe. On appelle ça des persiennes. Et c'est décoratif. Et, ou sinon, c'est qu'en guise de store, ça coûte cher, des persiennes, très cher. Moi, j'avais fait un estimé pour ma propre maison, puis, écoute, j'ai abandonné le projet.
On parle bien de volet extérieur, hein, voilà.
Nous, c'est intérieur.
Ah oui, mais elle est là, la différence.
Extérieur, non, on n'a pas ça ici.
Moi, quand je dis volet, je parle vraiment de volet extérieur, c'est-à-dire que toutes les maisons, tous les appartements ont des volets extérieurs. Parfois, notamment quand c'est des volets électriques ou des choses comme ça et tout, on n'est pas obligé d'ouvrir la fenêtre pour les fermer. On peut le faire de l'intérieur via une manivelle ou un bouton électrique. Mais le plus souvent, dans les maisons dites traditionnelles, il faut ouvrir la fenêtre, pencher sa petite tête dehors et fermer les volets pour faire le noir complet dans la maison. Donc quand on arrive ici, on voit les maisons qui sont vraiment plutôt joli, hein, on va dire, il y a des belles devantures, enfin voilà, c'est plutôt sympa, mais on remarque tout de suite qu'il n'y a pas du tout de volet, et je vous assure que quand vous serez sorti deux fois pour sortir les poubelles en plein hiver et qu'il fait moins 17, vous comprendrez pourquoi il n'y a pas de volet, parce que faire le tour de la maison tous les soirs pour fermer les volets, ça va juste pas être possible, quoi.
Moi, je vais vous dire que probablement que les plus grandes qualités de fenêtres sont au Québec, parce qu'avec le froid qu'on a l'hiver, la fenêtre qu'on bat. Écoute, c'est incroyable ce que la fenêtre peut faire. Quand tu y penses, des fois, il fait moins 30 dehors, puis il fait 25 degrés Celsius. Pas 25, excuse-moi, c'est un peu chaud, là. 21 degrés Celsius à l'intérieur. Et la fenêtre doit être éco-énergétique. Elle doit... Écoutez...
Et d'ailleurs, vous appelez pas ça une fenêtre. Ça m'a surpris aussi, parce que quand on a pris la maison, tu m'as dit qu'il y avait un thermo à changer.
Oui.
Et je connaissais pas le terme. Pour moi, un thermo, c'est, je sais pas,
la vitre.
Voilà. Et voilà. Et la vitre, c'est un thermo, mais ça montre bien, effectivement, l'importance qu'il y a sur le côté isolation, quoi.
Oui.
Et c'est vrai qu'elles sont très performantes, hein, ceci dit, parce que il y a quand même un écart de température qui est quand même monumental. Et je parle même pas des écarts simplement dans la journée. Déjà, là, c'est intérieur-extérieur. Mais si en plus on prend des variations dans la journée, c'est quand même assez impressionnant. Donc,
il
faut des matériaux qui résistent.
C'est pour ça que l'isolation aussi est très importante dans les maisons. Écoutez, c'est... Comment je pourrais dire? On est loin des maisons en pierre. Il y en a ici, des vieilles maisons en pierre, mais c'est pas monnaie courante, là, on s'entend. Mais
oui, c'est vrai que les maisons ici sont principalement ossature en bois.
Oui, ossature en bois. Et aussi, il y a un code du bâtiment qui vient réglementer aussi le niveau d'isolation que vous avez sur les murs de la fondation, dans le grenier, sous la dalle de béton, même maintenant. Je parle pour les nouvelles maisons, là. Si vous voulez vous construire une nouvelle propriété, une maison neuve, c'est sûr qu'il faut aller selon les normes d'aujourd'hui.
Normal.
Donc, mais c'est important de les suivre parce que par la suite, c'est le propriétaire qui va en bénéficier de sauver les coûts énergétiques.
Mmh. Oui, puis sans compter que si on suit pas les normes pour le jour où on veut revendre, ça peut être un petit peu compliqué.
Ben, tu sais, moi, personnellement, quand un client va acheter une propriété, je vais jeter un œil au compte d'Hydro-Québec. Parce que il y a une différence entre payer, mettons, 2 400 $ par année versus 7 000. C'est rare qu'on voit ça, mais
Oui.
Faut que l'acheteur soit conscient dans son budget, là.
Ouais, c'est sûr que l'électricité est pas chère, mais quand même, quoi. C'est 7 000 $, ça pique un peu.
Mais je vous dirais qu'en général, au Québec, dépendamment de l'habitation, mettons une maison unifamiliale, là, standard, je vous dirais, c'est peut-être entre 2 400 $ puis 3 000 dans ces eaux-là. Mm-hmm. Là, ça y va avec le pied carré, là.
Oui, normal.
C'est sûr, là.
Normal. On a fait un joli tour. Du coup, moi, j'aimerais bien... Tu nous as donné pas mal de petits conseils et tout, mais allez, si t'avais... demain, t'as une nouvelle petite famille française, pourquoi pas, mais qui arrive et qui vient te voir et qui te dit, voilà, Gabriel, nous, on arrive, faut qu'on se loge. Comment qu'on s'y prend? On va où? On fait quoi? Les trois petits conseils ou peut-être les questions que tu leur poserais ou que tu leur demanderais de se poser pour qu'ils choisissent, qu'ils fassent les bons choix et peut-être qu'ils s'installent là où il faut. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que tu leur dirais?
Tout d'abord, moi, je leur demanderais s'ils ont déjà trouvé un emploi. Première des choses. Parce que si vous me dites, Gabriel, j'ai trouvé un emploi et je dois m'y rendre à chaque jour, ben on va s'arranger pour trouver quelque chose qui est qui est proche. Deuxième des choses, aller chercher une préautorisation au sein d'une banque pour voir votre capacité d'emprunt. Maintenant, avec la capacité d'emprunt, on va pouvoir chercher les maisons avec les critères premiers que vous avez. Si, exemple, vous me dites, moi, Gabriel, je vais être dans une ville où est-ce qu'il y a un train? Parce qu'ici, le train, il n'y en a pas partout.
Ça, oui, je les transports vous le dis, en commun, ça fera l'objet d'une autre émission, mais effectivement, les transports en commun, c'est, voilà.
C'est pas aussi évolué, puis on a hâte que ça avance, ça va venir.
Il y a du taf.
Je regarde aussi, je vous donne un exemple. Les écoles francophones, il y a pas de problème, mais les écoles anglophones au Québec, c'est pas toutes les villes qui ont les écoles anglophones. Donc, si j'ai une famille qui me dit, moi, mes enfants vont rester à l'école anglophone ou ils vont à l'université en anglais, mais il y a plusieurs critères qui vont faire en sorte que je vais aller sélectionner une ville plus qu'une autre. Puis aussi, il y a les activités. Si vous me dites, OK, mes enfants, je sais pas, moi, ben je pense pas qu'ils vont jouer au hockey s'ils arrivent. Ben ils peuvent jouer au hockey.
Il y en a plein d'autres qui jouent au hockey.
Ben oui. Hein. Bref, c'est d'y aller vraiment avec les critères premiers des gens. Puis si vous me dites, écoutez, Gabriel, je veux une maison de 2 étages avec 3 chambres sur le même étage, avec un terrain d'une telle grandeur, ben si c'est impossible... Si ça se trouve pas, cette maison-là, dans le quartier que vous désirez, c'est à moi de vous le dire aussi. Tu sais, c'est pas moi qui va inventer une propriété à vendre avec vos besoins exacts. Faut que je la trouve, mais faut que ça soit réaliste aussi.
Eh ben, c'est sûr.
C'est évident. Il y a une grosse discussion à faire, puis je l'ai fait souvent avec des gens qui viennent de l'extérieur, puis justement, c'est bien parce que je peux leur expliquer la mentalité, la vision des gens d'ici, qu'est-ce qui pourrait être bon avec eux. C'est déjà assez difficile, je crois, puis tu vas le confirmer, de plonger dans un univers que tu connais pas. Donc, tu sais, je pense que c'est bien de faire confiance à quelqu'un puis de dire, ben garde, moi je le connais ce secteur-là puis je sais que tu vas être bien avec ta famille. Je pense que tu cherches une sécurité quand tu changes ton élément. C'est important de faire confiance à quelqu'un.
Du coup, ce que je vais faire, c'est que en commentaire de ce balado et sur le site internet, je vais mettre tes coordonnées à toi.
C'est gentil. Voilà.
Comme ça, si les gens veulent s'installer sur Châteauguay, Saint-Constant, Mercier.
Ville-Mercier, ma ville natale.
Voilà. Ouais. Dans tout ce coin-là, s'il y a quelqu'un que vous devez appeler, bah c'est Gabriel. Donc vous aurez ses coordonnées. Et surtout, voyez, elle commencera par vous poser des questions pour que vous puissiez bien identifier votre projet et que vous ayez, comme nous, voilà, parce que je vais faire un peu sa publicité, mais comme nous, la chance d'être bien installé dans une maison qui vous correspond et dans un quartier qui vous va bien, dans lequel vous vous sentirez bien, puisque quitte à tout remettre en cause en partant à l'aventure à l'autre côté du monde, autant que vous vous sentiez bien dans votre petit chez vous. Gabriel, je te remercie énormément d'être venu à ce micro.
Mais ça me fait vraiment plaisir de t'avoir revu. Je suis contente de voir que tu es heureux dans ta maison avec ta famille.
Ouais, puis t'as vu, puis ça fait un super studio. On ne te l'avait pas mis au départ dans le cahier des charges en disant il nous faut un studio d'enregistrement, mais finalement, tu vois, le salon fait office de...
On s'adapte à tout.
Je mets toutes tes coordonnées sur le site et puis voilà, si vous avez des questions à lui poser, contactez-la directement et puis nous, on se revoit bientôt.
Avec plaisir.
À bientôt.
Ciao, bye ciao. Bye.
Et voilà, Fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Bah, par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh oui, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants, tout ça vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet faitufrette.com. Sur ce même site, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancé très prochainement. Et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerai avec vous des articles, des infos, des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec. Enfin justement, puisque vous êtes curieux, je suis sûr que vous avez des questions, des suggestions, que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet. Eh bien, je ne demande qu'à vous lire. Envoyez-moi un courriel. Oui, j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Fais-tu frette, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tirer ou quoi que ce soit. Donc, fais-tu frette à commercial. Ah oui, j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas at ou arrobase, on dit à commercial. gmail.com. Bah, j'avoue, c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début, vous allez voir, c'est très simple. Fais-tu frette, FAISTUFRE2TE, à commercial, gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause, car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon jour. Alors bonjour à tous et à tantôt.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.